Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Elle a le sentiment d'avoir eu mille vies, et quand on l'écoute, nous aussi. Je vous parle d'Elisa, alias Edieucréa. Elle s'émancipe de ses parents très tôt et finance elle-même ses études. Elle commence une carrière dans la vente, d'abord en France puis aux États-Unis. Elle rentre en France, intègre rapidement l'univers du luxe et devient responsable communication pour la marque Marité François Girbeau. En parallèle, elle crée son blog qui parle de ses coups de cœur et qui décolle pendant sa grossesse pour sa première fille. Enfin, elle fait un burn-out et se lance pleinement à son compte pour Edieucréa et en tant que freelance en communication. Qui mieux qu'elle représente l'audace et le fait de se construire seule ? J'ai eu l'honneur de recevoir Elisa sur mon podcast pour parler de son parcours, de son métier, de créativité, de sortie de zone de confort, d'Instagram, d'être soi et de bien d'autres choses. Si vous aimez l'épisode, 5 étoiles sur Apple Podcasts, un petit commentaire ou le partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux nous ferait énormément plaisir. Belle écoute! Bonjour Elisa!
Bonjour!
Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui.
Merci
Alors,
beaucoup.
Alors on est à distance, je sais que tu étais avant en région parisienne, on aurait pu, mais tu n'es plus à Paris.
Non, en effet, et j'ai beau revenir souvent, nos voix se sont superposées, j'ai beau revenir souvent, il se trouve que j'étais pas du tout en déplacement.
D'accord. Comment vas-tu? Déjà avant de commencer cette interview.
C'est très gentil de me poser la question. Écoute, c'est une bonne journée, ça va bien.
Ouais, et ben génial. J'espère que tu as du soleil par chez toi parce que nous, c'est un peu compliqué de le trouver.
Oui, nous, il fait beau.
Il fait beau, d'accord. Moi, je te connais comme créatrice de contenu sur Edieucréa. C'est là où je t'ai découverte il y a quelques années. Par ton joli compte Instagram, comme podcasteuse aussi, comme autrice, comme consultante en communication pour des marques, comme entrepreneuse, puisque tu as aussi créé une marque dont on parlera peut-être. Est-ce que tu peux te présenter, toi, en trois adjectifs qui pourraient te correspondre ?
Alors, c'est drôle parce que moi, je ne me présente jamais à travers mon parcours professionnel. C'est-à-dire que dans les dîners, etc., si on me demandait de me décrire justement en trois adjectifs, je dirais jamais entrepreneuse, autrice, jamais. Donc, je dirais plutôt que je suis maman en premier, parce que c'est ce qui me vient toujours en premier à l'esprit. Après, je pense que je suis amoureuse de la vie et joyeuse de nature.
Joyeuse de nature, maman et amoureuse de la vie. Et ben j'ai envie de revenir peut-être sur le côté joyeuse. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Comment ça se manifeste cette joie au quotidien ?
Bah en fait je crois que la joie, j'en parlais avec ma fille il y a quelques jours. Je crois qu'on peut décider le matin de se dire aujourd'hui je vais être joyeuse ou pas. C'est-à-dire que c'est une prise de position. Je pars du principe que si on se lave le matin en décidant que la journée va mal se passer, elle se passe mal. Et je crois qu'à l'inverse, si on décide bah, qu'au final tout va bien aller et que tout roule et que tout glisse, c'est le cas. Et donc moi, quitte à choisir, bah, je préfère être dans la posture de tout va bien se passer que l'inverse.
C'est un exercice quotidien, en effet.
Ouais. Et puis, j'ai grandi en Afrique. Alors, je dis en Afrique parce que j'ai grandi dans plusieurs pays d'Afrique, dont principalement le Cameroun. Et il se trouve que bah, j'ai eu la chance d'être accueillie dans ce pays, la chance de pouvoir y vivre, puisque c'était, ce n'était pas mon pays. Et au contact des gens qui vivaient au Cameroun et des Camerounais, j'ai appris aussi ce que c'était que la joie et la gaieté au quotidien, même dans des situations peu évidentes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Une espèce de fatalité heureuse presque, où de toute façon, ce qui arrive, arrive, et après, on décide de l'aborder d'une certaine façon ou pas. Et en fait, concrètement, je pense que ça m'a marqué à jamais.
Je suis totalement d'accord avec toi pour avoir aussi fréquenté des nannies africaines, puisque j'étais aux Émirats avant et j'avais deux nannies africaines. C'était exactement ça. C'est cette joie naturelle, cette bienveillance incarnée. Et je pense qu'être au contact de ces femmes qui ont des vies parfois pas faciles, c'est un pays beaucoup moins riche que le nôtre, et bah on développe cette valeur-là. C'est hyper intéressant. Et justement, j'ai envie de te demander de revenir sur la petite Elisa. Tu dis sous une publication... Lorsque j'étais petite, je me représentais les adultes comme des gens très sérieux et un peu ennuyeux. C'est pour cela que j'ai mis du temps à en devenir une. Et j'ai envie de te demander déjà, est-ce que tu étais une petite fille joyeuse ? Et à quoi ressemblait ton enfance ? Dans quelle famille tu as grandi ? Et puis peut-être à quelle occasion, du coup, tu as été en Afrique ?
Alors, donc, j'avais des parents qui étaient ce qu'on appelle des expats. Moi, j'ai été très marquée par cette enfance, donc dans plusieurs pays d'Afrique. Notamment le Cameroun, et j'ai été très marquée dès l'enfance par l'attitude des expatriés en Afrique, et justement j'en ai gardé un sentiment. Je pense que j'avais la naïveté et la pureté de l'enfance, et en fait je pense que j'ai été observatrice très jeune de toutes les notions, que ce soit de racisme, que ce soit de paternalisme, de postcolonialisme, toutes ces choses qui m'ont énormément marquée. Et quand je dis les adultes étaient très sérieux et tout, pour moi c'était justement tous ces expatriés qui étaient tous un peu des petits patrons dans les pays qui les accueillaient. Et en fait, je pense que j'ai été choquée dès l'enfance par cette attitude, avec un profond sentiment d'injustice, avec la volonté de surtout jamais devenir une adulte comme ça. Et voilà, et je pense que mon enfance a été avant tout marquée par cette injustice que j'ai pu constater dans les rapports et dans les échanges dès l'enfance. Donc ça m'a marquée.
C'est beau et c'est fou ce que tu dis, parce que pour parler un petit peu de moi, c'est pour ça aussi que je suis partie des Émirats. Est-ce que tu te sentais heureuse, toi ? Est-ce que tu étais une petite fille heureuse ? Tu te sentais entourée ?
J'ai pas eu une enfance particulièrement heureuse. D'ailleurs, le sujet de l'enfance, tu vois, c'est pas quelque chose sur lequel je tiens particulièrement à m'apesantir. Mais non, j'ai pas. Je pense que j'ai pas eu ce qu'on appelle une enfance heureuse. Après, je pense aussi que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore j'ai une âme d'enfant. C'est-à-dire que je crois que j'ai quelque part, si j'ai pas eu ce morceau d'enfance heureuse, j'ai peut-être décidé aussi adulte de me l'offrir. Tu vois, de m'offrir toute cette espèce d'enfance idéale.
D'accord. Qu'est-ce que faisaient tes parents dans la vie ?
Alors, ma mère ne travaillait pas. Bah, comme beaucoup de familles d'expatriés à cette époque, à ce moment-là, dans ces pays-là. Donc, on était sur un schéma très traditionnel, avec ma mère qui ne travaillait pas et mon père qui travaillait dans différentes grosses sociétés à des postes assez importants.
D'accord. Ce qui ressort chez toi, Elisa, et moi, c'est ce qui m'a marqué quand je t'ai découverte. Alors, j'arrive pas à me souvenir il y a combien d'années. Parce que ça fait pas mal de temps quand même que je suis sur Instagram et que je te suis. C'est ta capacité vraiment innée à être créative, à être poétique, à un petit peu romancer ta vie par tes écrits, par tes publications. Quel est ton premier souvenir peut-être, ta première émotion liée à la créativité?
En fait, j'ai toujours été un peu créative parce que j'ai toujours été extrêmement manuelle et je pense que la création, elle vient avant tout des mains. Et en même temps, comme j'étais dans une famille assez traditionnelle, où les études étaient quelque chose de majeur, la réussite sociale, etc., j'ai jamais eu de formation artistique ou autre, parce qu'on a toujours privilégié, par exemple, je pense que je suis une vraie manuelle, mais il était impensable dans ma famille que je puisse faire des études manuelles. Donc, typiquement, ça, c'était pas possible. Donc en fait, pendant longtemps, ça a été plutôt en sommeil, plutôt une envie qu'autre chose, mais sans formation spécifique. Ensuite, j'ai fait des études de lettres qui clairement m'ont nourrie, permis d'avoir la capacité de m'exprimer, de réfléchir. Voilà, ça, je ne regretterai jamais de les avoir fait, même si concrètement, elles ne m'ont jamais servi après. Mais elles m'ont servi, je pense, personnellement. Et ensuite, dès que je suis devenue adulte, et donc un peu libre de mes choix, etc., mes loisirs ont tout de suite été manuels. Parce que c'est ce que j'aime faire. Donc, un peu touche à tout. C'est-à-dire que coudre, tricoter, enfin, tu vois, tout ce que j'ai pu essayer, je l'ai fait. Jusqu'à du bricolage, enfin voilà, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis concrètement. Après, je crois que je suis spécialiste en rien, mais plutôt un peu touche à tout.
Et si on revient justement sur ton parcours, sur tout ce qui s'est passé avant et Dieu créa, et puis sur tes premiers jobs, est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer un petit peu plus en détail ce que t'as fait?
J'ai financé mes études seule en étant vendeuse. Donc, en fait, j'ai rapidement été indépendante et j'ai rapidement coupé les ponts avec mon père. Du coup, je n'ai pas eu de soutien financier. Donc, juste après le bac, il a fallu que je finance mes études. Donc, j'ai fait en parallèle des études de lettres et en parallèle, j'ai commencé à travailler à trois quarts temps dans des boutiques de vêtements. Et juste après la fin de mes études, après une maîtrise de lettres modernes, je suis partie vivre aux États-Unis. J'ai suivi quelqu'un et je suis partie vivre aux États-Unis pendant quelques années.
D'accord.
Avec ce bagage de vendeuse. Donc, arrivée là-bas, j'ai un peu tout fait, tous les jobs possibles, que ce soit gardienne de chien, babysitter, barmaid, j'ai tout fait. Et jusqu'au moment où je suis devenue vendeuse chez Guess. J'ai été sponsorisée par la boîte pour être employée chez eux. Et en fait, j'étais dans un système américain qui marche vraiment, au mérite. Et du coup, très vite, je suis devenue première vendeuse de Californie. Et en fait, c'est un système où tu gravis assez rapidement les échelons, entre guillemets, au cœur de la vente. Et je suis très rapidement devenue responsable de boutique. Donc, alors que j'avais pas 25 ans. Et lorsque je suis rentrée en France quelques années plus tard, j'ai continué. J'ai réalisé que mes études de lettres modernes, finalement, n'allaient pas m'amener à un métier particulier. Et j'ai décidé de continuer dans la vente parce que c'était un peu une évidence. C'était aussi un peu facile de trouver du travail sans trop se poser de questions. Et très rapidement, je suis rentrée dans l'univers du luxe.
Ok.
Donc, dans des grosses boîtes, LVMH, Kering, etc. Et voilà, j'ai été dans plusieurs maisons. Pareil, j'ai progressé à l'intérieur de ces différentes maisons. Et notamment chez Marité François Girbeau, où je suis devenue responsable de la communication interne. Donc, en fait, j'ai fait mes armes à chaque fois à l'intérieur de maison où je me suis formée en quelque sorte. Okay.
D'accord.
Voilà.
Et t'étais où aux États-Unis? T'étais à San Francisco, je crois.
Oui, à San Francisco, c'est ça.
Ok. Ouais. Et t'en gardes quel souvenir? C'était par rapport...
J'avais moins de 25 ans, donc déjà c'était il y a longtemps. Donc ce sont des lointains souvenirs, mais ça a été extrêmement formateur à un âge où j'étais encore en construction. Il y a eu un avant et un après San Francisco. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis partie seule, sans attache, sans papier dans un premier temps, dans un pays comme les États-Unis, à partir de ce moment-là, j'ai plus été, il y a plus eu de frein. À partir du moment où t'es capable de faire ce genre de choses seule, sans argent, sans rien, et de te sortir de toutes les emmerdes que j'ai pu avoir, à partir de ce moment-là, j'ai su que de toute façon, je m'en sortirais toujours.
C'est ça, c'est un peu l'art de la débrouille. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis, c'est que t'as dû être responsable très tôt et ça t'a fait devenir, et j'imagine que tu parles de cette expérience, extrêmement débrouillarde. Et c'est hyper intéressant, ça. C'est que quand on connaît ça très tôt...
J'ai aucune crainte, par exemple, professionnelle. C'est-à-dire que si demain, c'est la cata professionnellement parlant et que j'ai plus de sous, je peux aller vendre des mojitos sur la plage, mais sans aucun problème et sans regarder en arrière. Ou je peux redevenir vendeuse, être serveuse, je peux faire... et j'aurai jamais aucun problème avec ça, ni d'ego, ni de soucis de réussite sociale, ni de peur. Tu vois, je me sens vraiment capable de faire tous les métiers. Du moment que j'apprends, quoi, tu vois.
Parce que tu as connu justement quelques galères, tu as des souvenirs particuliers de situations
dont
tu as dû te sortir.
Typiquement San Francisco, les premiers temps j'avais pas de papier, donc j'ai été sans papier aux États-Unis, ce qui est pas simple. J'ai vécu dans des hôtels où tu as le droit de rester 3 semaines et parce que justement ils veulent pas que ça se transforme en logement, donc c'est... Mais quand je te parle d'hôtels, c'est des lieux déplorables, ouais. Vraiment. Pas cher, etc., où j'étais avec ma valise et mon chat, et je changeais toutes les 3 semaines d'hôtel, et ça a duré longtemps. J'ai été dans des galères financières, mais pas possible, à pas savoir ce que j'allais manger le lendemain, enfin. Mais bon, écoute, après, j'ai été très jeune, je m'en suis sortie, il n'y a pas de problème.
T'as réussi à retomber sur tes pas en rencontrant des personnes, en ayant tapé dans les portes pour trouver du boulot, j'imagine.
Oui, oui. En boulot, j'ai fait absolument tout. Mais vraiment absolument tout. Je me souviens, il y a des Français, j'étais babysitter chez eux. Elles me payaient au jour le jour. Et parce qu'évidemment, sans papier, en plus, tu vois, t'as zéro garantie de rien du tout. Et j'attendais, je gardais, elle avait un bébé, elle venait d'accoucher, une petite fille. Et en fait, elle attendait que j'arrive pour elle aller prendre un peu l'air. Et moi, dès qu'elle sortait de la maison, la première chose que je faisais, j'allais dans son frigo et je mangeais, quoi.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, je mangeais chez elle. Et je mangeais, je me prenais une petite douche. Voilà, je me reposais un peu chez elle. Et puis voilà, mais en fait, ça n'est en rien des mauvais souvenirs.
Ouais.
Tu vois, et puis il y a aucun moment où j'ai eu peur. Il n'y a pas eu de... C'était plutôt non, et du coup, ouais, c'est un super souvenir, San Francisco.
Et tes parents n'avaient pas peur pour toi? Enfin, peut-être qu'à ce moment-là, tu parlais déjà plus avec ton papa, mais ta maman...
Ma mère, donc, était divorcée de mon père. Seule, entre-temps, elle s'est remariée avec quelqu'un. Évidemment, elle avait quelques inquiétudes, mais après, elle a toujours dit que j'étais l'électron libre de la famille. Et qu'en fait, elle a très vite su, même lorsque j'étais petite fille et tout, ça c'est ce qu'elle me raconte, que j'étais extrêmement débrouillarde. J'ai aussi une sœur et elle a toujours vu que nous étions différentes, que nous n'avions pas les mêmes besoins et que moi j'étais plutôt d'une nature à me débrouiller quoi qu'il arrive. Quoi.
D'accord, il fallait te faire confiance. Elisa, tu as commencé très tôt dans le monde des blogs, avec Edieu Créa. Tu as commencé, je pense, qu'à 10-12 ans, c'est ça? 12 ans?
Oh, même plus.
Même plus.
Il y a 15 ans.
15 ans, tu vois.
Ouais, 15 ans.
Ouais, donc vraiment, vraiment au début, il y a 15 ans, on était en quelle année? Ouais, 2012.
C'était en 2007.
2007, ouais, c'est ça, 2007. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as commencé à partager? Pourquoi tu l'as créé? Quelle était ta vision à cette époque?
Bah, en fait, j'étais mère célibataire. D'ailleurs, c'est le père de mon fils dont je m'étais séparée qui m'avait suggéré le format blog. Il m'avait dit, il savait que j'aimais beaucoup écrire, que j'aimais, à l'époque, j'aimais partager des coups de cœur. Et il m'avait dit, écoute, tu devrais essayer d'ouvrir un blog. Je savais absolument pas ce que c'était qu'un blog. Et je crois que c'est lui qui m'a ouvert mon premier blog et je suis allée commencer à écrire dessus. Et juste après ça, on s'est séparés. Donc, j'étais mère célibataire et j'avais beaucoup de temps seule, en fait. Parce que mon fils était tout petit. Donc là, pareil, hein, nouvelle galère de sous. Quand j'étais mère célibataire, c'était vraiment compliqué financièrement les premiers temps. Et du coup, je sortais pas rien. Je restais à la maison avec mon fils, voilà. Et donc, le soir... Comme j'ai jamais eu de télé, le soir, j'écrivais des billets, que ce soit d'humeur ou des choses que je découvrais et que je partageais. Voilà comment a commencé Ediocréa. Et pourquoi ça s'appelle Ediocréa ?
Parce que
je faisais beaucoup de rubriques sur le cinéma. Et Ediocréa, la femme, c'est un de mes films préférés, le film de Roger Vadim. Et à l'époque, les premiers blogs qui existaient, ce n'était que des blogs de mode. Et donc, mon blog s'appelait Ediocréa Marc Jacobs, le blog qui parle de tout, sauf de Marc Jacobs. Voilà.
D'accord.
Voilà l'histoire.
Et à ce moment-là, tu étais responsable de magasin au moment où tu t'es retrouvée, du coup.
Avec mon fils. Donc j'étais responsable d'un stand Marité François Girbeau, Galerie Lafayette. Donc, autant te dire avec des horaires à rallonge et un tout petit salaire. Et heureusement, ma boss chez Marité François Girbeau était une super femme. Qui a vu que j'étais travailleuse et puis que j'étais mère célibataire et tout, et elle a tout fait pour m'aider. Et très rapidement, j'ai été promue au poste de responsable de la communication interne. Donc ça m'a permis ensuite de travailler dans des bureaux, d'avoir un meilleur salaire et des horaires plus compatibles avec le fait d'avoir un petit garçon seul.
T'avais quel âge à ce moment-là ?
Bah, j'ai eu Jules à 27 ans. Donc, j'avais 29 ans.
29 ans, ok. Donc, tu étais responsable communication, tu avais ton blog. Comment, au fur et à mesure, cette visibilité s'est créée? Puisque j'imagine qu'au départ, tu avais peu d'abonnés. Enfin, on commence tous avec zéro. Comment, on va dire, la sauce a pris pour toi?
Ben, on était plusieurs à ce moment-là à se lancer dans les blogs. Attends, je dis des bêtises. Donc, il y a eu Ediocréa Marc Jacobs. J'ai démarré avec des coups de cœur. Et puis, j'ai rencontré mon compagnon et je suis tombée enceinte. Et en fait, c'est là que tout a démarré. Je suis tombée enceinte, donc, de mon deuxième enfant et à savoir ma première fille. Et en fait, ce blog qui était un coup de cœur, pendant la grossesse de ma fille, il a évidemment évolué en un carnet de bord qui était plus un carnet de bord de grossesse.
D'accord.
Et en fait, c'est là que le blog a pris de l'essor. Jusqu'à présent, il y avait très peu de lectorat, mais toujours qualitatif, ça plaisait quand même. Et au moment où j'ai commencé le carnet de bord de grossesse, je pense qu'en plus, de plus en plus de blogs arrivaient un peu dans la sphère. Et il y a eu un élan, c'est-à-dire que ça a été la combinaison de deux choses, à la fois mon contenu qui s'est transformé et à la fois un public qui a commencé à arriver et qui était en recherche de blog. Il y avait un vrai intérêt pour ça. Et donc, mon blog a pris cette note plus familiale, carnet de bord un peu de vie, et c'est là où ça a commencé à vraiment prendre.
D'accord. Donc, peu à peu, j'imagine que tu as eu 10 000, 20 000,
oui.
30 000, et puis ça...
Ensuite, ça s'est fait au fil du temps.
À presque 200 000 aujourd'hui, donc bravo. Sur ce podcast, je demande toujours aux entrepreneurs et même aux créateurs de contenu le processus créatif, en fait, de mes invités. Certains ont besoin de voyager, certains ont besoin de s'isoler dans une maison. Certains ont besoin d'explorer durant des semaines, pour d'autres c'est assez évident. Toi, tu as toujours des contenus qui sont hyper hyper créatifs en fait. Comment en fait tout ça te vient ?
Alors moi je suis insomniaque de nature. Et du coup, je me nourris en permanence, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de temps que le commun des mortels, en ce sens que mes nuits sont beaucoup plus réduites, et que la nuit, je lis, je regarde, je vois des films, je vois des séries, je me nourris énormément. C'est d'ailleurs l'objet d'une rubrique qui plaît beaucoup sur Insta, qui est la rubrique de mes coups de cœur hebdomadaires. Et en fait, tout ce que je présente, je l'ai vu, je l'ai lu. Donc ça fait quand même beaucoup par semaine. Et concrètement, c'est le fait de me nourrir en permanence de toutes ces lectures, de toute l'actualité, de toutes ces choses, qui fait que ma créativité reste, nourrie, tout simplement. En fait, je pense vraiment, à une époque, ça aurait pu être les voyages. Je voyage beaucoup moins, mais je pense que c'est le fait de regarder les autres, ce qui se passe, ce qui se fait, qui fait qu'ensuite, toi, tu es capable de produire des idées neuves.
D'accord. Et j'allais te demander aussi, parce que justement, t'as une fréquence de publication qui est assez incroyable, je trouve. C'est tous les jours presque. Tu partages beaucoup d'astuces. Comment, quand ça t'arrive, parce que peut-être que ça t'arrive, comment tu gères ces moments où t'as moins d'inspiration, où tu t'essouffles peut-être un petit peu? Parce que j'imagine que c'est toujours très compliqué. Enfin, moi qui crée aussi du contenu avec ce podcast, avec mes réseaux sociaux, c'est toujours un petit peu compliqué quand parfois t'as moins d'idées, t'as moins d'inspiration.
Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où on est moins riche que d'autres, hein. Ça, c'est évident. Après, quand ça fait 15 ans que tu as l'habitude de publier, quel que soit le support, avant c'était le blog. Et à l'époque du blog, je publiais un article par jour. Donc, je pense que finalement, ça reste malgré tout un exercice. Et que, au bout de 15 ans, même si t'as un peu moins d'idées, t'es suffisamment professionnel dans ta capacité à créer du contenu pour pallier à ces petits moments de baisse de forme. Donc, moi, je dirais que c'est comme ça que je m'en sors. Je suis toujours capable de produire quelque chose. Après, évidemment, il y a des moments où la fatigue, où les problèmes, où même l'actualité peuvent nuire à la capacité de créer du neuf. Mais en général, c'est très vite renouvelé parce que une des grandes richesses de ma vie, c'est que depuis que je suis entrepreneur et à mon compte, je m'autorise pendant les vacances scolaires de mes enfants à travailler d'ailleurs que chez moi. D'accord. Donc concrètement, c'est toutes les 6 semaines. Donc moi, je ne suis pas en vacances toutes les 6 semaines, mais généralement, on ne les passe pas chez nous, on va ailleurs. Et parfois, c'est une petite maison à la campagne, parfois c'est en van, on fait beaucoup de voyages en van. Et le fait de partir de chez toi toutes les 6 semaines, ça renouvelle quand même pas mal ton air, ton environnement, et ça m'aide aussi beaucoup.
Ton contenu est autour aussi de cette maternité. Quel impact, tu dirais, ça a eu dans ta vie devenir maman?
Alors, il est presque plus autour de ma maternité parce que ma vie a évolué et que maintenant je suis la maman de grands enfants. En fait, c'est plutôt que mon contenu, il est autour de ma vie de femme. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été une jeune maman, dans ma trentaine, dirais-je, avec de jeunes enfants. Donc, bien évidemment, lorsque je partageais des choses, la maternité était au cœur des sujets que j'abordais. Mais ça n'a jamais été que ça. Il y a toujours eu beaucoup d'autres choses, comme la cuisine, la création, les voyages, etc. Et il se trouve qu'aujourd'hui, maman de grands enfants, j'évoque moins la maternité, moins la petite enfance et davantage d'autres problématiques de femmes, notamment des problématiques de femmes de plus de 45 ans. Donc en fait, c'est plutôt que mon contenu évolue finalement avec ma vie de femme. Voilà, c'est plutôt ça, tu vois. Et je pense que si je continue à m'exprimer que ce soit sur Instagram ou d'autres supports, je pense que j'aurai toujours besoin de m'exprimer, eh bien, je pense que ce contenu va continuer à évoluer avec ma vie de femme.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais t'en parler aussi, je trouve que tu as un don pour l'intime, en fait, pour partager des choses intime, pour aussi montrer une certaine forme de vulnérabilité dans tous tes partages. Et ça, c'est pas, je trouve, évident. Forcément, quand on s'expose, on peut s'exposer aussi à la critique. Comment tu fais pour aujourd'hui, bah, dépasser un petit peu ça et...
Bah, c'est le fruit de pas mal de réflexions, puisque j'ai du recul. Ce que j'ai appris, c'est que, en aucun cas, tout comme lorsqu'on est une femme et qu'on marche avec une mini-jupe dans la rue, personne n'a le droit de vous traiter de, je vais pas le dire, mais de, tu vois, ou de te mettre une main aux fesses. Personne n'a le droit de le faire. Il en est exactement de la même sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quel que soit ton contenu, ta façon de t'exprimer, ce que tu choisis de montrer ou pas, personne n'a à s'autoriser la, alors, parler, discourir, discuter ensemble. Bien entendu, c'est le but même de l'échange. En revanche, insulter et juger, non. Donc déjà, avec ce recul, le temps que j'ai eu, parce que je suis un peu un dinosaure maintenant, après 15 ans sur différents supports et réseaux sociaux, bon bah j'ai un peu plus de bouteilles. Donc évidemment, la maturité aidant, il y a des choses qui, bah il y a des choses qui ne m'atteignent plus. D'une part parce que je sais que je suis dans mon bon droit pour m'exprimer. Et que je peux m'exprimer sans qu'on ait à venir, soit m'insulter ou toute autre chose. Et d'autre part, parce que je sais que je suis légitime, que je propose quelque chose de travaillé, qui plaît et qui fait du bien aux gens. En tout cas, à certaines personnes. Et enfin, parce que, avec le recul et justement un peu de bouteille, j'ai appris que les gens qui critiquaient sur les réseaux, j'ai compris. Que finalement c'était un rejet de leur propre peur. Finalement tu n'es jamais responsable, ce n'est pas toi qui es visé lorsque tu subis des attaques. En fait c'est une espèce d'idée que l'on se fait de toi, c'est une espèce d'image que tu renvoies et qui finalement va confronter le mal-être, les craintes ou les failles de quelqu'un. Et c'est ce qui fait que des personnes en face peuvent réagir mal. Et en fait, avec toute cette somme de choses, bah maintenant j'ai envie de te dire que je m'en fous complètement. Tout simplement, mais je crois qu'il faut du temps pour être à l'aise.
Ouais, ouais, t'as bien raison. Non, mais c'est clair, mais ça apporte tellement. Enfin, moi j'adore tes textes qui sont très intimes, qui sont très... Parce que c'est ça ce qu'on recherche aussi, c'est la vulnérabilité chez les personnes. Et moi, je suis la première à consommer des contenus comme ça, parce que aujourd'hui, des contenus qui montrent voilà, que tout est beau, que tout est réussite, que tout est... Enfin, en fait, sans parler de ce qui va... des failles et de ce qui est plus dur dans la vie, enfin, c'est ce que les gens cherchent. Et moi, c'est ce que je fais aussi. Hein, c'est ce...
Et tu sais, d'ailleurs, dans ces critiques, il y a vraiment une ambivalence. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui vont te dire qu'ils veulent du vrai, et les mêmes qui vont te reprocher de soi-disant trop en dire, trop en montrer. Tu vois, donc il y a déjà une ambivalence dans les critiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas être sincère et ne pas montrer. Et puis, je pars du principe que je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer les réseaux sociaux, ne pas aimer Instagram. Mais à partir du moment où tu es toi-même inscrit et utilisateur, même si tu n'es pas créateur de contenu, tu fais partie du problème.
Exactement.
Entre guillemets.
C'est vrai.
Donc, si tu es totalement contre, en fait, il faut juste ne pas être sur ces applications-là. Sinon, tu fais partie du jeu, tu vois ?
Exactement. Aujourd'hui, toi, ça t'a amené, j'ai l'impression, beaucoup plus de casquettes, en fait, aujourd'hui. Je crois même que tu es consultante en communication pour les marques. Tu fais plein de trucs, t'es slasheuse. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais concrètement aujourd'hui et quelles sont toutes tes casquettes?
Alors déjà, moi, j'ai... on vient de l'évoquer, il y a beaucoup de critiques autour des réseaux sociaux. Moi, je reste une inconditionnelle des réseaux sociaux et notamment d'Instagram, parce que à mon époque, au moment où je me suis lancée, ça a permis à certaines nanas comme moi, qui n'avaient pas forcément les études, l'argent, le backup nécessaire pour s'inventer un métier, grâce à une plateforme 100% gratuite et de créer un nouveau métier. Et ne serait-ce que pour ça, je serai toujours infiniment reconnaissante. C'est-à-dire que j'avais tout ça en moi, cette créativité, etc. Mais j'ai eu les opportunités gratuites grâce à une plateforme gratuite. Alors, bien entendu, depuis, il n'y a plus rien de gratuit et c'est devenu un véritable métier. J'ai même appris que maintenant, il y a des études. Mais moi, je suis née avec, finalement, on a toutes construit ce métier-là. Et pour cela, malgré toutes les failles, malgré tous les progrès à faire, ça reste quand même une opportunité qui a été géniale. Donc ça, déjà, c'est assez fabuleux. Et maintenant, oui, ça m'a donné l'opportunité de changer de job. Donc moi, j'étais dans la vente, dans le domaine du luxe. Et je t'avoue que au bout d'un moment, avec 3 enfants, je gagnais, entre parenthèses, très bien ma vie. Mais j'avais des horaires à rallonge. Je travaillais les samedis, les jours fériés. J'étais jamais chez moi avant 21h. J'ai eu mes 3 enfants à Paris dans ces conditions-là, en allaitant, enfin bon, un rythme effréné. Et à un moment donné, j'ai eu envie de m'inventer un nouveau métier qui me permettrait aussi de les voir grandir. Et j'ai eu l'opportunité, lorsque le blog s'est développé, puis Instagram, j'ai jamais voulu être à 100% ce qu'on appelle influenceuse. Parce que je pense que de mes années de galère financière, j'ai gardé toujours la volonté d'avoir une certaine sécurité. Et j'ai toujours eu peur qu'être influenceuse à 100%, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, tu pouvais ne plus plaire ou les partenariats, enfin. Donc j'ai essayé de développer mes compétences en à côté. Et c'est pour ça que je me suis mise à accompagner des marques. Je me suis toujours dit, ben, si un jour t'es plus influenceuse, et ben tu auras toujours ces compétences-là et ce métier que tu t'es fait sur mesure. Donc aujourd'hui, j'ai la marque que j'ai cofondée avec 2 autres personnes, qui est une marque d'infusion bio, et je suis en freelance sur des missions, parfois sur du court terme, parfois sur du long terme, avec différentes marques que j'accompagne en communication.
Ok, tu te partages donc entre toutes ces casquettes si Instagram ferme demain.
Oui, ça peut arriver. Hein,
ça peut arriver, c'est vrai. Et ben, je m'en souviens d'ailleurs, il y a quelques mois, on s'est mis tous à perdre énormément d'abonnés. Je ne sais pas si tu te souviens. Et certains comptes fermaient. Et en fait, c'était un bug mondial. Mais il y a eu pas mal d'échos comme quoi c'était la fin d'Instagram et tout ça. Enfin, plein de gens qui se sont enflammés sur Twitter. Mais c'est vrai et c'est intéressant de cumuler plusieurs casquettes.
Tu vois, une grand-mère dirait on met pas tous les œufs dans le même panier. Après, je pense que si Instagram, alors je pense pas que ça va fermer. Par contre, tu vois, à une époque, Facebook c'était la folie, et maintenant il y a plus personne sur Facebook à part des personnes âgées. Et tu vois, c'est ce qui peut arriver avec un support comme Instagram. Je reste persuadée qu'il y en aura d'autres avec d'autres moyens de communication, mais rien ne dit que si aujourd'hui ce que je fais plaît sur Instagram, ça plaira. Tu vois, par exemple, on voit que maintenant ce sont des contenus vidéo ultra rapides. Il faut sans cesse s'adapter. Et peut-être que dans 10 ans, je serai plus capable de m'adapter. Enfin voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver.
Tout à fait. Aujourd'hui, Elisa, tu es pleinement à ton compte. Comment?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et pourquoi tu as opéré cette transition?
Ben, ça faisait des années, j'avais des années d'épuisement derrière moi. Parce qu'après avoir été donc responsable de la communication chez Marie-Thérèse François Girbeau, je suis retournée sur le terrain, comme on dit, c'est-à-dire que je suis redevenue directrice de boutique. Donc, on parle de métiers qui sont très fatigants, où t'es debout toute la journée, souvent en talons hauts, où t'affrontes les soldes, toutes les périodes promotionnelles avec une pression commerciale hallucinante. À travailler les samedis, les jours fériés, enfin bref. Et puis j'ai eu deux bébés entre temps, enfin. Donc ça faisait des années, je pense, que j'étais dans un épuisement pas possible. Dans des situations très conflictuelles au boulot, et ça c'est le propre du retail. Et mon dernier job, je suis arrivée vraiment dans un cas de figure horrible. C'est-à-dire, la précédente directrice de boutique avait été renvoyée. Et pendant le temps de latence, ils avaient mis l'adjointe en directrice de boutique. Donc évidemment, c'était son rêve d'avoir ce poste. Et ils m'ont embauchée et ils l'ont remise adjointe. Donc moi, j'arrive là avec en second, c'est-à-dire soi-disant mon bras droit, une nana qui en fait venait de faire mon job pendant 6 mois. En plus, elle avait très bien travaillé. Elle méritait vraiment d'avoir ce poste, mais bon, moi, j'étais pour rien. Et ils l'ont remise. Donc, moi, je suis arrivée dans ces circonstances-là. Donc, évidemment, ça a été l'enfer. Ça a été avec, en plus, une pression commerciale terrible et des horaires à rallonge et une nana qui m'a mis des bâtons dans les roues pendant toute cette période. Donc, ça a été juste atroce, vraiment, hein. Et je suis arrivée au bout de mes capacités physiques et mentales.
T'avais quel âge à ce moment-là?
C'était avec qui? Bah, c'était il y a 5 ans, hein. Donc,
5 ans.
Je, ouais, ouais. 6 ans, donc 6 ans, la quarantaine. Et avec une direction qui m'a complètement lâchée, qui m'a pas du tout soutenue. Et voilà. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, c'est-à-dire je suis arrivée au bout de mes possibilités. Et ils m'ont renvoyé pour incapacité.
Ah ouais.
Donc, tu as fait ce job pendant 25 ans. Et on... Attends, pas... incompétence.
Pire. Ah oui, d'accord.
Pas incapacité,
ah oui,
incompétence.
Carrément.
Donc, tu as fait ce job pendant 25 ans. Tu sais, un job dans lequel tu as toujours été excellente et tout. Et on te vire pour incompétence. Donc, voilà. Mais à la fin, j'étais tellement au bout du rouleau. J'avais plus de voix, j'avais une bosse dans le dos, enfin un truc mais terrible. Et en fait, l'entrepreneuriat, ça faisait des années que tout le monde me disait « mais lance-toi » et que j'osais pas. Et j'ai pas eu le choix, en fait, ça a été le coup de pied au derrière pour me lancer, c'est ce qu'il me fallait.
Ouais, c'est ce qu'il te fallait, exactement. Bah oui, en plus, t'avais déjà Educrea, donc t'avais le réseau pu développer pour trouver des clients. Et tu t'es fait accompagner à ce moment-là
J'ai eu un coaching, mais en fait, j'ai eu très peu de séances. Mais ça, c'est ce qui me caractérise. C'est-à-dire que je mets longtemps à me décider, mais par contre, ensuite, quand c'est parti, c'est parti. Donc, en gros, j'ai fait 4 séances de coaching et c'était parti, quoi.
Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis, c'est par rapport justement, bah ça fait 15 ans que t'es là, que tu parles de des préoccupations bah que tu as en fait au jour le jour, et c'est hyper intéressant parce que ta communauté en fait elle grandit avec toi, elle a les mêmes problématiques que toi, et donc du coup tu les embarques depuis des années d'une façon très fluide. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, tout ce partage, tout cet échange dans ta vie?
Bah moi je reste persuadée que les échanges et le partage, c'est la plus grande des richesses. J'ai plaisir, en fait, à discourir au quotidien et à échanger avec d'autres femmes. Ça, c'est vraiment un réel besoin. Après, de toute façon, lorsque l'on est créateur de contenu, à un moment donné, il faut être conscient que c'est parce qu'on aime être lu ou vu. Ça, sinon, on ne le fait pas. Moi, j'ai un réel plaisir à être lue. Et je crois que j'ai eu toujours du plaisir. Et d'ailleurs, tu vois, à chaque fois, on explique sur les réseaux sociaux ce qu'il faut faire et ne pas faire. Moi, je fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que j'écris des légendes qui sont des romans. Tous les coachs en Instagram disent que c'est le dernier truc à faire. Et tu vois, moi, ça plaît quand même beaucoup. Donc, c'est que j'ai une communauté qui aime lire.
Ouais.
Donc, finalement... J'ai trouvé des gens qui me ressemblent. Mais oui, je pense que j'ai envie de dire des choses et envie qu'elles soient lues et entendues et d'en discuter après.
Et quand tu as une nouvelle collaboration, comment tu l'appréhendes? Comment ça se passe? Est-ce que tu bosses seule? Est-ce que tu bosses avec avec une équipe?
J'ai pas d'équipe. Alors les collaborations, déjà, il faut savoir qu'on en reçoit parfois 75 à 100 par jour et qu'en fait, on en refuse 74. Hein. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de... Je crois que c'est un métier qui gagnerait à être davantage connu parce que quand j'entends des gens dire « Oh, elle fait beaucoup de... » Pas en parlant de moi, d'ailleurs, mais on entend souvent des gens dire « Elle fait beaucoup de collaborations, des trucs comme ça. » Je pense qu'ils n'imaginent pas le nombre de choses qui sont refusées au quotidien et que c'est donc un vrai choix. Voilà la notion première, c'est que c'est un choix. Donc, lorsque je fais une collaboration, c'est avant tout parce que elle m'a plu et qu'elle me ressemble. Donc ça, voilà. Sachant qu'en plus, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai continué à bosser à côté. C'était de pouvoir être libre financièrement parlant et ne pas être contrainte d'accepter des trucs juste parce que ça rapporte. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, depuis peu, j'ai ce qu'on appelle un agent, c'est-à-dire une personne qui s'occupe de toute la partie contractuelle. Parce que, tu as beaucoup parlé du fait que j'étais une créative, on n'est pas bon dans tout, et moi, typiquement, pour tout l'aspect administratif et organisationnel, je suis une catastrophe. Donc, j'ai pris quelqu'un qui me soutient à ce niveau-là. Donc voilà les étapes et ensuite arrive la partie créative et là c'est là où je m'amuse.
Et par rapport à toutes ces sollicitations et ça moi c'est une question que je me pose encore tous les jours parce que je suis freelance en communication et voilà j'ai pas mal de casquettes, comment tu arbitres entre les projets que tu acceptes et que tu refuses en fait, quelle est ta méthode un petit peu sur ces centaines de sollicitations par jour, qu'est-ce qui te
dit... Non mais là c'est pas compliqué parce que quand t'es créatrice de contenu, ce qu'on te propose, c'est une offre commerciale. Donc, c'est assez simple. Tu te poses pas de questions bien longtemps. Soit tu adhères avec ce qu'on te propose de montrer, soit tu n'adhères pas, soit tu décides d'être quelqu'un qui va parler d'un sujet plus que d'un autre ou pas, tu vois. Donc, déjà, moi, tout ce qu'il y a... Parce que parfois, les gens qui te contactent, tu te dis, est-ce qu'ils ont vraiment regardé mon compte? Parce que dans le lot de tout ce que je reçois, il y a déjà la moitié qui part d'office parce que ça ne me ressemble pas. Ensuite, il y a une autre partie qui part parce que c'est des marques qui n'ont pas des valeurs que je partage. Et ensuite, tu regardes et puis finalement, le choix se fait vite et t'arrives vite à la personne que tu acceptes, tu vois.
Et même
ça, en soi, c'est pas très compliqué.
Et dans ton métier de freelance, c'est pareil.
Non, alors dans mon métier de freelance, déjà le choix est moins large. Il y a pas 400 personnes qui tapent à ma porte tous les jours. Hein. Ça, c'est évident. Et finalement, c'est assez facile depuis le début. Je croise les doigts pour que ça continue. C'est plutôt des gens qui via mon Instagram réalisent que je peux proposer. D'accord. Une aide en communication et qui du coup sentent une affinité avec moi et vont venir me contacter en me disant qu'est-ce que tu proposes, est-ce que tu penses que tu pourrais m'accompagner et tout, et du coup il y a déjà un gros tri qui s'est fait, tu vois. Si elles sont passées via mon compte, forcément déjà il y a une affinité évidente.
Je vais parler un petit peu de ton côté autrice et du côté un petit peu perso, si tu acceptes d'en parler, si on a déjà parlé à plusieurs reprises sur ton compte. Tu as écrit deux livres, dont un sur le deuil périnatal, dont je trouve d'ailleurs, c'est pour ça que je me permets de t'en parler, dont on parle pas assez en fait. Il y a un très bon podcast d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années sur le sujet. Tu dis cette épreuve m'a révélée, m'a réveillée. Est-ce que tu peux me dire dans quelle mesure et me parler justement de ce projet de livre que tu as écrit ?
Alors oui, parce qu'en fait, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, il y a des étapes de vie. Et moi, cette étape douloureuse, ça y est, elle est derrière moi. Donc, je suis sereine à ce sujet. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Ça a été une véritable épreuve dont il a fallu me relever. Et typiquement, l'écriture, ça a fait partie d'un processus de guérison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu poses les mots, ça a été très égoïste comme projet. Et ensuite, je sais que c'est un livre qui a servi à beaucoup de gens, qui leur a permis même d'évoquer le deuil périnatal avec leurs enfants, etc. Mais en toute sincérité, moi, lorsque j'ai écrit cette histoire, je l'ai pas écrite pour aider d'autres personnes. Je l'ai écrite d'une part pour raconter à mes enfants, à moi, et ensuite pour m'aider moi. Et il se trouve que j'en ai fait un livre et qu'il s'est vendu et voilà. Mais ça a été un exutoire.
D'ailleurs, je mettrai les notes pour ceux que ça intéresse d'ailleurs dans l'épisode et qui seraient passés à côté. Toi, tes enfants, j'ai envie de te parler aussi de ta maternité. Quelle maman tu es ? Quelle relation tu as avec tes trois grands-enfants ? Enfin, ils sont quand même petits, mais bon, ils sont plus grands que... Voilà, c'est pas des bébés, c'est plus des bébés.
Oui, oui, bien sûr, ils sont pas tout petits.
Et quel a été peut-être ton rapport avec toi, ta propre enfance en fait ? Parce que parfois, quand on a des enfants, c'est un petit peu compliqué, entre guillemets, des adolescents, c'est un petit peu compliqué, on peut avoir peur de projeter des choses. Toi, comment tu appréhendes en fait ? Quelle maman tu es par rapport à toi, ta propre maman que tu as pu avoir ?
Alors déjà, j'ai beaucoup de mal à me définir en tant que maman. Ça, c'est une question qu'on me pose toujours et vraiment, ouais. J'ai beaucoup de mal parce que je sais pas trop. Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à mes enfants. Et ensuite, parce que je pense que je suis pas la même avec mes trois enfants. Parce que je les ai eus à des âges différents, dans des circonstances différentes. Et puis parce que eux, ce sont des êtres à part entière. Et qu'en fait, leur caractère propre, etc., fait qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes besoins par rapport à moi. Et ça, encore plus depuis qu'ils grandissent. C'est-à-dire que je fais absolument pas la même chose avec tous. Alors j'essaie d'être équitable et de passer autant de temps avec les uns et les autres. Tu vois, j'ai quand même comme ça un peu des trucs que je me suis fixés. Je voulais absolument être équitable avec mes enfants. Mais en fait, t'es jamais pareil. Et puis selon leurs âges à eux. Enfin, il y a des moments où ils sont plus en demande des autres. Bah par exemple à l'adolescence où ils expriment moins leurs besoins. Enfin. Donc je sais pas quelle maman je suis. Je peux te dire la maman que je voulais être. Je voulais absolument être la super maman. Et puis au final, on fait un peu comme on peut. Je crois que je pourrais résumer la chose en disant j'ai fait mon maximum et j'ai fait de mon mieux. Voilà. Ça c'est super. Vraiment. je pense que c'est ce qui me caractérise. J'ai fait mon max. Tout en étant consciente qu'il y a plein de fois où j'ai vraiment, avec le recul, je me dis « Oh putain, là, j'aurais dû faire autrement. » Mais en tout cas, j'ai fait mon maximum.
Comment tu gères ton équilibre vie pro, vie perso ? Comment t'as géré et comment tu gères ?
Alors, j'intellectualise absolument pas le truc. Pareil, ça me fait... on a l'impression que c'est des vrais sujets d'actualité. Gérer son temps libre, machin et tout. Moi, à chaque fois, j'assiste un peu à ça. Et je sais pas si à un moment donné, des gens s'asseyent en se disant « on va faire un équilibre entre... » Moi, je fais un peu comme ça vient, comme je peux. Forcément, quand t'es créateur de contenu, le côté pro et le côté perso sont intimement liés. Donc, plus le temps passe, moins j'en montre. Plus les années passent, plus j'ai de la distance. C'est aussi quelque chose qui s'apprend. Parce qu'au début, en plus, c'était un métier naissant. Donc au début, t'es tout feu, tout flamme. Tu sais pas trop comment gérer le truc. Tu sais pas trop comment ça va se passer. Et je pense que vraiment, moi, avec la maturité que j'ai dans ce milieu, plus les années passent, moins j'en montre. Et puis mes enfants grandissent, donc maintenant je parle plus presque plus que de moi, presque. Voilà, mais il n'y a aucun moment j'ai une structure à ce sujet précise. Mais je dirais que finalement, j'ai dû y arriver parce que j'ai pas d'insatisfaction, tu vois. Il n'y a pas de moment où je me dis, oh là là, j'ai pas de vie perso ou je l'ai. D'accord. Et puis ensuite, il y a aussi quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que même lorsque l'on croit que la personne nous en montre beaucoup, etc., en fait, il faut savoir que d'une part, c'est choisi, romancé comme tu le disais, et surtout qu'il se passe plein de choses que tout le monde n'imagine pas. Et ça, c'est chez tous les comptes, enfin, tu vois. Et donc, moi, j'ai aussi des passions que personne ne connaît. Enfin, il y a aussi des choses et des moments que je vis auxquels les gens n'assistent pas. Enfin, voilà.
Mais ça, c'est la magie des réseaux. Les gens, ils pensent tout savoir, alors qu'en fait, c'est 10 minutes d'une journée si ça. On pense aux posts et aux stories.
Exactement, exactement.
Et d'ailleurs, tes enfants, quel regard ils portent sur ton métier aujourd'hui? Quel regard ils portent aussi sur le fait d'être maquillée joliment, d'être habillée joliment, d'être photographiée? Ils aiment bien, ils se prennent au jeu?
Maquiller mes enfants?
Non, mais tu sais, les maquillages parfois que tu fais, festifs, des plutôt.
Ah oui, d'accord, je comprenais pas parce que ils sont jamais maquillés. Alors, comme je te disais, mes enfants sont de moins en moins sur mes réseaux. Ouais. Parce qu'ils grandissent et parce qu'ils ont eux leurs propres réseaux sociaux, notamment mon fils qui va fêter ses 18 ans. Écoute, figure-toi que ça se passe plutôt très bien. Ils sont super contents pour moi, ils sont assez fiers. J'ai pas eu de problème quand ma fille est arrivée au collège, tu vois, on s'est posé la question, on s'est dit est-ce que ça va être un souci si par exemple des copines à elle réalisent que leur mère est une influenceuse, etc. En fait, elle fait partie d'une génération où ils ont grandi avec ça et où finalement ce sont les parents qui vont se poser des questions plus que les enfants. Ils sont aussi formés à l'école, c'est-à-dire que ils ont un vrai recul sur les réseaux sociaux. Ils savent exactement ce qu'on doit dire, ne pas dire. Il y a des cours spécialisés là-dessus à l'école. Évidemment, on a eu une multitude de discussions à ce sujet aussi à la maison. Donc voilà, ça se résume comme ça. Le fait d'avoir une maman dont c'est le métier. Ils n'ont pas de naïveté à ce sujet. Tu vois, par exemple, j'ai souvent entendu dire des parents dire « Oh là là, ils rêveraient de devenir YouTuber, ils se rendent pas compte. » Bah moi, mes enfants, ils savent que c'est vachement de boulot. Ouais. Ils savent que c'est pas de l'argent tout cuit dans la bouche, ni une vie forcément rêvée, ni voilà. Tu vois, ils connaissent l'envers du décor et ils savent que c'est avant tout un travail. Enfin voilà.
Tout à fait. Si tu avais des tips communication, justement, enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire émerger un projet sur leur réseau, que le projet soit eux-mêmes, d'ailleurs, ou qu'ils aient quelque chose à mettre en avant, tu leur conseillerais quoi?
De trouver leur singularité. Parce que tu vois, tout à l'heure, on évoquait le fait que je faisais tout ce que les coachs disaient de ne pas faire en Instagram, à savoir des légendes qui sont des vrais textes, et qu'en fait, moi, ça marche. Comme quoi, par là, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de canevas tout prêt. On entend souvent des grandes idées toutes faites sur ce qui va marcher, pas marcher. Et en fait, je crois que tout peut fonctionner si c'est fait et que c'est 100% vrai, naturel, etc. Et que ça vous ressemble à 100%. Exactement. Tu remarqueras que dans les projets et les comptes, il y en a, c'est un peu des copies conformes, des espèces de modes, de photos, de... Et en fait, ça marche pas. Enfin, où il y en a un qui va marcher, celui qui est copié par tous, mais c'est pas ce qui fonctionne. La singularité, et il y en a beaucoup qui appellent ça une niche, la singularité, parler d'un sujet en particulier, ça peut être la peinture sur bois flotté, hein, peu importe, quel que soit le sujet, mais que ce soit votre truc et vous le traitez à votre façon, sans contrefaçon. Il faut pas faire ça parce que c'est soi-disant le truc qui fonctionne, tu vois.
Exactement. Et pour moi, ça demande vraiment de revenir à soi et de travailler la connaissance de soi Et ça me fait une belle transition pour aussi un petit peu en parler avec toi. Toi, j'avais envie de savoir justement comment tu... Est-ce que tu avais des méthodes ? Est-ce que tu t'étais fait accompagner ? Est-ce que tu avais testé des choses en fait dans le développement personnel sur toutes tes années de travail, de vie perso et de vie pro, justement pour garder ce pour te connaître en fait et pour être bien en phase avec toi, quels que soient les aléas que tu vas rencontrer dans ta vie, parce que c'est un exercice qui est pas très facile, moi je trouve.
Non, mais c'est pour ça que je suis bien dans mes baskets aujourd'hui à 46 ans. C'est parce qu'il y a tout le vécu avant. Ça n'a pas toujours été le cas en fait, et c'est pour ça tout à l'heure tu disais t'as un contenu qui montre des failles, etc. Mais parce qu'en fait c'est tout mon vécu. J'ai rencontré des aléas, j'ai eu des problèmes professionnels. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai fait un burn-out pro et que j'ai été renvoyée. Enfin, c'est finalement c'est une construction et un chemin personnel qui font qu'aujourd'hui je suis sereine. Mais j'ai jamais eu ni de méthode, ni même la volonté de me poser et d'y réfléchir. En fait, j'ai juste avancé et évolué, tu vois. Et d'où, c'est aussi, je pense, une notion qu'on perd et qui est majeure à une époque où tout va trop vite. Tu vois, parfois, je parle avec des jeunes personnes qui font le même métier que moi et qui vont même peut-être avoir plus d'abonnés que moi. Elles les ont eues en 5 ans. Et en fait, moi, ça m'a pris 15 ans. Et en fait, je crois que c'était un chemin nécessaire pour pouvoir justement ensuite affronter cette jungle virtuelle sereinement et en étant posée. Je crois que tout va un peu trop vite parfois et que le temps, le recul, l'expérience, ce sont des notions majeures qu'on a tendance à perdre et qui sont juste essentielles.
Très bien. J'ai une dernière question avant de finir par des petites questions que je pose toujours à la fin de chacune de mes interviews. À presque 50 ans, j'ai le sentiment que tu t'assumes, tu partages avec tes abonnés ton évolution. Mais en tout cas, j'ai l'impression vraiment que tu es belle, tu es posée, tu émanes quelque chose de très positif. Quelles sont les leçons pro et perso que tu tires de toutes tes expériences jusqu'à présent ?
En fait, je crois surtout que déjà au début, je me suis rendu compte que je faisais tout 10 ans plus tard que les autres. Je crois que j'ai pas été accompagnée, j'ai financé mes études toute seule, j'ai pas eu un démarrage simple, et du coup, j'ai raté plein de trucs. J'ai pas passé mon permis de conduire quand les autres passaient leur permis de conduire, on m'a pas payé mes études, on m'a pas aidée pour prendre mon premier appart. Du coup, j'ai galéré un peu pour tout. Donc j'ai tout fait après les autres, mais ça m'a fait apprécier le fait de vieillir, là où c'est une crainte chez beaucoup. Et concrètement, aujourd'hui à 46 ans, là où beaucoup de femmes commencent à avoir une peur du temps qui passe et tout, moi je suis juste en train de kiffer. Parce que j'ai tellement galéré avant que... Maintenant, ça se passe de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. La vie est plus douce. J'ai plus trop de soucis financiers. Enfin, tu vois, les choses se sont un peu installées. Et du coup, là où d'autres femmes commencent à rencontrer certains écueils, même professionnels, une certaine invisibilisation, etc. Eh ben, en fait, moi, je suis vachement mieux qu'à n'importe quel autre âge. Et j'aime vieillir. Et j'ai, en fait, pas peur d'avoir 10 ans de plus, pas peur que mon aspect physique pour les autres s'altère. J'ai pas peur de moins correspondre aux attentes physiques, parce qu'en fait, finalement, c'est presque une libération. Et en fait, j'ai plutôt de la joie à être plus calme, plus sereine, plus posée, à continuer à apprendre chaque jour. Et du coup, cette deuxième partie de vie, elle me va très bien. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis sereine. La seule inquiétude que je pourrais avoir, c'est au niveau de la santé, parce qu'autour de moi, je vois que ce sont aussi des âges où des soucis peuvent arriver. Et la seule chose que je tiens à préserver jusqu'au bout, c'est pas une espèce de jeunesse éternelle, c'est pas une peau sans rides, c'est pas une taille 36, c'est juste ne pas tomber malade. Voilà.
Exactement, mais c'est beau pour ceux qui nous écoutent, je trouve que c'est hyper inspirant parce que en fait les choses peuvent prendre du temps et c'est bien parce que comme tu dis, on est dans une société où il faut tout de suite gagner un salaire de fou, faut tout de suite avoir 90 000 abonnés sur Instagram, faut tout de suite savoir ce qu'on veut faire, même enfin, j'imagine que tu le vois avec tes enfants à l'école, enfin je sais pas si ça a changé, mais en tout cas moi à mon époque,
mais c'est pas, c'est la même, mon fils il doit déjà horrible. Savoir ce qu'il va faire de sa vie à 17
c'est
ans,
méga stressant. Et en fait bah ouais, mais non, enfin on peut être au top à 50 ans et d'ailleurs c'est ce que mon mec me dit tout le temps parce que parfois moi je trouve que ça va pas assez vite pour moi et il me dit mais purée mais t'as le temps en fait, il y a des gens qui entreprennent à 50 ans et c'est ok en fait.
Bah oui.
Ça, c'est... et donc je trouve ça hyper super comme leçon, donc merci beaucoup à toi. On va finir par des petites questions.
D'accord.
Lisa, les questions que l'on te pose le plus.
Combien je gagne? Parce que je crois qu'il y a une fascination pour ce métier, tu sais, d'influenceur. Alors, on me dit pas, ça se passe pas comme ça. Parce que ça, c'est les gens n'osent pas, tu vois. C'est tu t'en sors, ça marche bien.
Ouais,
tu vois, ça se passe plutôt comme ça. C'est amusant, mais depuis que je fais des looks et tout sur Instagram, chaque jour, on me demande ma taille et mon poids. Voilà, parce que ça, ce sont des soucis récurrents qui sont le propre de dictats qu'on nous inflige. Hein. Et puis, parce que je fais pas une taille 36, donc comme les femmes me trouvent malgré tout plutôt jolie, ben voilà, elles aimeraient savoir. Qu'est-ce qu'on me pose d'autre ? Je sais pas trop. Je crois que c'est ça ce qu'on me demande le plus, oui.
Moi, j'allais te demander les réponses à ces questions, mais j'imagine que t'as pas envie de partager. Parce que
j'ai aucun problème. C'est pas l'influence qui me fait gagner ma vie. Concrètement, c'est plutôt mon métier en à côté. Et ma taille, bah, je fais une bonne taille 42, parfois même un bon 44, et 1m64.
Ok, merci à toi Elisa. Un échec et une leçon donc, que tu en aurais tiré.
Bah, mon plus gros échec, il a été personnel, c'est cet IMG qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ce quatrième enfant qui n'a jamais rejoint notre famille. Je crois qu'il y a deux options quand on a un drame qui nous arrive. C'est que soit ça nous terrasse, soit on réalise qu'on est capable de le surmonter. Et voilà.
Tes livres préférés ?
Alors, ça, c'est une question qui est toujours très difficile pour moi. C'est pas que je manque de réponses toutes faites, parce que je peux sortir des titres comme ça, qui ont un peu de gueule, pour faire un peu la nana intello, sans problème. Mais c'est qu'en fait, mes livres préférés, ils changent tout le temps. C'est souvent le dernier que j'ai lu.
Bah, le dernier que t'as lu, alors.
Bah là, je suis en train de lire le dernier de Virginie Grimaldi, qui est une autrice que j'aime beaucoup, qui fait... Alors, j'adore, parce que ça va me donner l'opportunité de dire quelque chose à son sujet. C'est l'autrice préférée des Français, parce qu'elle est simple et qu'elle parle de beaux sentiments. Et elle est souvent décriée par les critiques littéraires parce que son écriture ne correspond pas à un certain snobisme littéraire. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je vois très bien.
En fait, c'est une écriture qui est très jolie, attention, mais simple.
Oui,
pas torturée.
Ou peut-être
voilà, c'est des beaux sentiments,
oui,
tu vois ce que je veux dire ?
C'est ce qu'on aime.
Et voilà, et en fait, moi, cette espèce de plaisir immédiat dans la lecture me va très bien. Et j'ai aucun problème avec cette simplicité, bien au contraire, je trouve qu'elle est essentielle. Et tout comme parfois, à notre époque, être gentil, pour certains, c'est presque dépréciatif.
Oui.
Moi, je suis pour remettre au goût du jour la simplicité, la gentillesse, ces notions primordiales, tu vois.
Exactement, exactement. Et c'est drôle que tu parles de Virginie Grimaldi, parce que j'aimerais beaucoup l'avoir sur le podcast, mais j'ai du mal à la contacter.
Je crois qu'elle est très occupée.
Voilà, si elle écoute le podcast. Tes citations préférées.
Ce qui te manque, trouve-le dans ce que tu as. Je crois que c'est ma préférée de toutes.
Ce qui te manque, trouve-le dans ce que tu as. Ouais.
Parce que je pense qu'on est encore une fois à une époque où on a toujours besoin de plus, où la réussite sociale, personnelle, professionnelle se caractérise par le fait de toujours aller plus loin, etc. Et je crois qu'on oublie de profiter de l'instant et de réaliser que ce qu'on a déjà, c'est déjà très bien et plutôt suffisant.
Est-ce que tu crois à la chance ?
Alors, je crois que la chance, ça se travaille. Voilà ce en quoi je crois. Après, je ne suis pas pour dire qu'il n'y a que le travail qui paie, parce que malheureusement, ce n'est pas exact. On ne naît pas tous avec le même bagage culturel, émotionnel ou même social. Et tout ça a son importance. Donc, on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Je crois que c'est essentiel de le souligner. Mais ensuite, la chance ne fait pas tout. Si tu ajoutes pas beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, il se passera pas grand-chose.
Tes mentors ou les personnes qui t'inspirent le plus ?
Je sais pas, c'est pas facile. J'ai pas de grande figure comme ça qui me porte et m'inspire. Après, j'aime beaucoup. Ces derniers temps, c'est assez récent. Regardez les femmes plus âgées que moi. Tu vois des Emma Thompson, des femmes comme ça, que je trouve très inspirantes. Elles ne l'auraient pas été il y a 10 ans. Mais là, justement, depuis que j'ai dépassé les 45 ans, je crois que je me plais à regarder ces femmes aux cheveux gris, que je trouve belles. Qui en ont plus rien à faire de ce qu'on pense d'elles physiquement. Et ça me porte pas mal.
Tes routines pour être bien physiquement et mentalement ?
Alors, je suis nulle pour ça. Je n'en ai pas. J'adorerais s'y aller. Il y a le sport. Je me suis mise au sport il y a 2 ans et maintenant j'en fais. Ça me fait beaucoup de bien. Mais j'ai pas. Je me lève à 6 heures. Je bois un citron chaud, je médite, je note 2 phrases inspirantes dans un carnet. Sincèrement, j'adorerais. Je ne me moque absolument pas de ceux qui peuvent le faire, mais je ne sais pas comment ils font. Moi, dès que je mets un truc en place, un peu organisé, un peu sympa, ça fout le camp en 4 jours. Donc, en gros, je fais comme je peux.
Ouais, c'est déjà bien. Et ma dernière question, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie ?
Eh ben, je pense qu'on en a parlé pendant tout ce podcast, non ? Je pense que c'était l'essence même de notre conversation. Et je pense que c'était même la première phrase. Le matin, on se réveille et on décide de sa journée, si elle va être belle ou pas. Et arrêter de croire que les choses nous sont imposées. Et finalement, on est avant tout le premier acteur de notre vie.
Merci beaucoup, Elisa.
Merci à toi.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.